Oui, allez, on démarre. Alors, je vais faire l'appel. Donc, Monsieur Frey m'a fait pouvoir, Madame Escandella, Monsieur Bonafou, exceptionnellement, je vous demanderai d'être secrétaire de séance ce soir. Sylviane Perret aussi, Thierry Villa, je l'ai vu, Martine Vibarel aussi, Guylaine Taureau également, Christine Antoinet présente, Robert Crabat aussi, Clémence Raffanel, bien sûr, Louis Bentajou est là, Chantal Guillot aussi, Gabi Ruiz. Jean-Louis Abadie a fait pouvoir à Jérôme Bonafou, Marie-Hélène Mathia, elle est là Marie-Hélène, oui bien sûr, Christiane Mott aussi, Véronique Ray, d'ailleurs on lui adresse toutes nos pensées puisqu'elle a malheureusement perdu sa maman, donc elle a fait pouvoir à François Perrea, il n'est pas là, il n'est pas arrivé François ? Bon, il ne va pas tarder. Michel Tardy est là, Véronique Salgas aussi, Thierry Dominguez, je l'ai vu, Rémi Glomo est là, Françoise Mambria est là, Stéphane Hugonnet aussi, Marion Merten, elle est présente, François Perrea, donc j'espère qu'il va arriver, Sylvain Vial, Sylvian, mais non, mais on a écrit Sylvain, pas bien, Laurence Mabelli, mais je sais que vous appelez Sylvian, Laurence Mabelli est là, Marie-Josée Auger, comment a fait pouvoir à Thierry Nadal. Patrick Dumont est là, Thierry Nadal est là, donc Alain Ivars aussi, André Figueras également, Nadia Catanzano est là, et Fabienne Varezano, je ne sais pas, je ne suis pas excusé, bon, peut-être elle va arriver aussi. Ok, donc le quorum est atteint. Donc l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal en date du 26 septembre dernier appelle. Telle des remarques, cette approbation ? Non, c'est bon ? Oui, je demande d'abord si ça appelle des remarques. Bon, voilà, donc qui est contre ce compte rendu ? Vous êtes contre. OK. Voilà. On a donc ensuite... Non, ça, c'est Laurent Brault. Bonsoir, Laurent Brault. Donc, Monsieur Bonafou, je vous demanderai d'être secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Non, donc vous l'êtes. Et nous démarrons donc par la première question de l'ordre du jour, qui est aussi la plus importante de la soirée, qui concerne le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2024 que va nous décrire Clémence Raffanel. On vous écoute.
Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. La tenue d'un débat d'orientation budgétaire est rendue donc obligatoire dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, afin de permettre donc au conseil municipal de débattre sur les grandes orientations du prochain budget. Donc ce rapport d'orientation budgétaire que l'on va décliner ensemble présentera les principales orientations et les choix fondamentaux de politique budgétaire que l'on retiendra pour le budget primitif 2024 de la ville et de ses budgets annexes. Un petit point avant de débuter, une petite précision sur le budget 2024 qui sera présenté par chapitre et article, conformément à la nouvelle nomenclature comptable, la M57, qui viendra remplacer l'instruction comptable M14. Et seul le budget annexe du Golfe restera en nomenclature M4, puisque c'est un EPIC. Donc pour rappel, cette instruction budgétaire et comptable M57, elle a rendu obligatoire l'adoption d'un règlement budgétaire et financier pour les communes de plus de 3500 habitants que l'on a voté au dernier conseil municipal en date du 26 septembre dernier. Petit point sur le contexte économique et stratégique avant de passer aux grandes orientations de ce rapport d'orientation budgétaire 2024. On constate une croissance économique nationale faible et malgré tout une décélération de l'inflation. Donc effectivement, l'économie française, elle a plutôt bien résisté malgré les multiples chocs auxquels elle a été confrontée. Donc la crise de l'énergie, mais aussi la poussée inflationniste et la remontée des taux d'intérêt. Quelques éléments importants à prendre en compte concernant la programmation de la loi de finances 2024. Donc on va noter une sortie des dispositifs d'aide exceptionnelle qui étaient versés aux collectivités jusqu'à présent. On a un effort qui sera porté sur les dotations de péréquation, les dotations de solidarité urbaine et rurale, mais la collectivité d'Agde n'en fait pas partie et n'est pas éligible. Les aides seront ciblées sur des fonds dédiés dans une logique de soutien à la rénovation énergétique et à la transition environnementale. Et pour terminer, s'agissant de la fiscalité spécialisée, on a pu relever ensemble l'élargissement du périmètre des collectivités qui pouvaient instaurer la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui peut aller désormais de 5 à 60% de majoration. Donc, concernant maintenant le bilan 2022 et les perspectives 2023 pour la ville, concernant les produits fiscaux, donc la revalorisation des bases par l'État engendre une hausse des produits fiscaux. Sur ce point, j'aimerais attirer votre attention et revenir sur un élément essentiel qui est le mode de calcul de la fameuse taxe, puisqu'on dit que les produits fiscaux augmentent, mais du fait de l'État. Donc je vais essayer de vous expliquer simplement comment est calculée cette taxe pour vous démontrer que, effectivement, les usagers sont impactés par la hausse, mais non pas du fait de la ville, mais bien du fait de l'augmentation des bases de l'État. Donc le montant de la taxe est calculé comment ? Tout simplement en multipliant la base imposable du bien, c'est-à-dire la valeur locative cadastrale, par le taux d'imposition applicable, qui lui est voté par la commune. Les valeurs locatives cadastrales, elles sont revalorisées chaque année en appliquant un coefficient. Et ce coefficient, il s'appuie sur l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui lui est publié chaque année par l'INSEE. Donc en fait, en 2023, compte tenu de la valorisation de cet indice, l'IPCH, l'application du coefficient a revalorisé en fait une augmentation de 7,1% de la base de calcul pour le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc en fait, même si la commune n'a pas augmenté son taux, la cotisation reste quand même impactée. Donc je voulais que ce soit clair sur ce point-là, des produits fiscaux en hausse, mais du fait de l'État et non de la commune. Si on continue, on peut voir que notre épargne brute conserve un bon niveau. Effectivement, les recettes de la collectivité devraient être en hausse et sont estimées à plus de 82 millions d'euros. Les dépenses, quant à elles, devraient augmenter et s'instaurent à 72 millions d'euros, ce qui nous donne une épargne de la ville avec un bon niveau et une estimation à plus de 10 millions d'euros en 2023. Je parle d'estimation puisque l'année n'est pas encore terminée et qu'elle se clôture, pour rappel, au 31/12/2023. Concernant notre encours de dette, il poursuit sa baisse malgré le bondissement des taux d'intérêt qui ne vous aura pas échappé. Qu'effectivement, la conjoncture des années précédentes sur les taux d'intérêt avait permis à la ville d'utiliser le levier de l'emprunt pour financer les principaux investissements structurants. Et l'exercice 2023 va permettre de poursuivre une baisse de l'endettement qui portera l'encours de la ville à 83,3 millions d'euros au 31 décembre 2023. Un petit focus, tant qu'on est sur la dette de la commune, pour vous parler de la répartition qui est équilibrée au niveau de l'encours des taux variables et des taux fixes. À aujourd'hui, nous avons une partie de nos emprunts à taux fixes qui représente 63% de notre encours et 37% pour les taux variables. Si on se projette à une échéance de 10 ans, on va tendre sur une projection beaucoup plus favorable en faveur des taux fixes, puisqu'on arrivera à une répartition de 75% pour les taux fixes et 25% pour les taux variables. Si on regarde un petit peu comment est concentrée la dette sur le budget principal de la ville, c'est 93% sur le budget principal, 5% sur l'île des loisirs et 2% sur le golf. Et puis j'attire votre attention sur le fait que nous avons un panier de prêteurs diversifiés. Donc nous faisons appel à différents organismes bancaires, ce qui prouve l'attractivité financière de la commune. Et on ne met pas tous les œufs dans le même panier, nous restons prudents. Après avoir fait ce focus donc sur le bilan 2022, les perspectives 2023, je vous propose d'aborder le sujet qui nous intéresse réellement aujourd'hui, qui est le rapport d'orientation budgétaire 2024, en commençant toujours par la section de fonctionnement. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, elles seront en baisse dans un contexte, comme je vous le disais, de décélération de l'inflation, avec une baisse essentiellement du coût des énergies, et cela malgré des taux d'intérêt qui resteront élevés. On notera également l'ouverture du château Laurent en année pleine, qui viendra forcément impacter les dépenses à la hausse. Si on regarde sur les grands chapitres, le chapitre des charges à caractère général sera en baisse de 1% par rapport à 2023, soit 16 millions d'euros, essentiellement du fait de la baisse du coût de l'énergie. Pour les charges de personnel, et ici je tiens à développer ce sujet, puisqu'on va voir qu'elles seront fortement maîtrisées, qu'il y a une vraie volonté de la commune de maîtriser ses effectifs, puisqu'on enregistrera une hausse de 3,4%, soit un montant prévisionnel de 39,1 millions d'euros. Donc cette évolution s'explique comment ? Principalement par l'impact en fait important des mesures nationales qui ont été prises pour revaloriser la rémunération des agents publics. Trois éléments sont à mettre en avant. On a d'une part l'effet report 2024 de l'augmentation des 1,5% de la valeur du point qui représente 570 000 euros. On a également l'impact de l'attribution à l'ensemble de nos agents publics de 5 points d'indice à compter du 1er janvier 2024 pour 364 000 euros. Et puis on a le GVT, donc l'évolution des carrières des fonctionnaires pour 300 000 euros qui viendra donc impacter la masse salariale. Cette progression est donc limitée et elle démontre que notre collectivité maîtrise l'évolution de sa masse salariale et donc de ses effectifs permanents. Un petit point sur le chapitre 65. Dans le chapitre 65, ce sont les participations et les subventions versées par la commune. Ils seront en hausse de 1,8%, donc avec 11,9 millions d'euros attendus. Ça concerne essentiellement la participation sur le SDIS pour 2 750 000 euros et sur le CCAS pour 4,3 millions d'euros. Les charges financières, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, observeront une forte hausse à hauteur de 11,7% du fait de l'escalade des taux d'intérêt. Et porteront le chapitre à 2,4 millions d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2022 et 2024, c'est une hausse de 1 million d'euros sur ce chapitre-là. Et concernant les atténuations de charges, elles diminueront de manière importante et s'élèveront à 1,2 million d'euros. Donc là, c'est du fait, en fait, du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l'Office de tourisme via la communauté d'agglomération. Donc en fait, on perd 2,8 millions d'euros en dépenses et en recettes. Je vais poursuivre maintenant avec les recettes réelles de fonctionnement qui sont pour 2024 prévues à la hausse. Donc dans le détail, nous avons les produits des services qui représentent un produit de plus de 8 millions d'euros, en hausse de 6,2%. Donc ça concerne essentiellement les parkings avec 2 150 000 euros prévus en 2024, la barrière également, mais aussi les recettes du Château Laurent, le Palais des Congrès et le Centre international de tennis pour ne citer que. Concernant le produit des impôts et taxes, donc notre chapitre 73, il est estimé à 59,1 millions d'euros. Ce volume total est en baisse de 0,2%. Alors pourquoi ? J'ai commencé à en parler tout à l'heure, donc en raison de l'arrêt de l'encaissement de la taxe de séjour, mais aussi de la baisse sur les ressources des droits de mutation à titre onéreux. Notre marché reste dynamique, mais c'est au niveau des volumes qu'il est moins important et que l'on prévoit donc une baisse à ce titre-là. Mais toutefois, cette baisse donc est compensée par l'augmentation des bases physiques de la fiscalité directe qui sont indexées sur l'inflation. Donc je vous en parlais tout à l'heure, le fameux mode de calcul. Donc l'année dernière, ça nous avait impacté à hauteur de 7,1%. Pour 2024, l'hypothèse est de 4%, soit 1 840 000 euros. Et c'est également compensé par l'instauration de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires que l'on a votée au Conseil dernier. Pour rappel, c'est plus 15%, soit 1,5 million d'euros supplémentaires. Après avoir vu le chapitre donc, du fonctionnement avec ses dépenses, ses recettes, cela me permet donc de basculer sur les investissements 2024. Par rapport aux dépenses d'investissement, elles vont se situer à un niveau soutenu, avec plus de 22,9 millions d'euros. Comment sont répartis ces investissements ? On a deux blocs. Le premier bloc qui va concerner les investissements courants et annuels des directions qui sont utilisés dans le cadre des opérations de maintenance, de renouvellement de matériel ou de petites opérations, et cela pour plus de 7,6 millions d'euros. Et puis on a un second bloc qui sera consacré à la poursuite des opérations 2023. Donc on a par exemple l'aménagement de la promenade à hauteur de 5 millions d'euros, la salle polyvalente pour 800 000 euros, les pistes cyclables, mais aussi la rénovation de la place du Molle et des années de la flânerie. Et puis par ailleurs, on a également de nouvelles opérations qui seront lancées en 2024, comme la rénovation énergétique de l'école Victor Hugo pour 600 000 euros, mais aussi les îlots de fraîcheur dans les cours des écoles, les projets de classe numérique, mais aussi le renouvellement du parc radio sur les ondes spécifiques de la sécurité et le centre socio-culturel Lachaud pour ne citer que, et cela pour un montant d'un peu plus de 15,3 millions d'euros. Donc ces investissements, ils sont financés comment ? Ils sont financés par l'autofinancement qui est dégagé par le fonctionnement et par les recettes d'investissement. Donc recettes d'investissement, c'est subventions, FCTVA et cessions. Cela pour près de 14 millions d'euros. Et puis par le recours à l'emprunt à hauteur de 8,5 millions d'euros. Donc on marque la poursuite d'une durée de désendettement contenue et maîtrisée avec une prévision d'encours de dette portée à 82,9 millions d'euros à fin 2024 et une durée de désendettement prévue à 6,7 ans. Donc en fait, on poursuit la baisse de notre endettement puisqu'on rembourse plus que ce que l'on emprunte. Il vous est proposé pour 2024 les règles de gestion de la dette suivantes. De maintenir une durée de remboursement préconisée à 20 ans, de privilégier des taux fixes, comme je le disais, plutôt que les taux révisables, de poursuivre une gestion dynamique de trésorerie et une capacité de désendettement souhaitée inférieure à 8 ans. Je pense que derrière moi, vous devez voir le plan pluriannuel d'investissement. Il est déjà passé. Alors, si jamais vous voulez voir les projets dans leur ensemble, en annexe, vous avez le PPI qui est fourni sur la tablette. Du coup, là, on vous a mis les principaux investissements. Je poursuis avec les budgets annexes. Concernant le budget annexe du Golf, en fonctionnement, les dépenses réelles seront en hausse de 4,5%, essentiellement frais de personnel et frais financiers. Les recettes seront en hausse de 1,4%. Concernant les dépenses d'investissement, elles concernent du remplacement de matériel courant, comme des tondeuses, de l'aménagement paysager. Et l'ensemble de ces investissements s'élèveront à 167 000 euros, financés par l'emprunt. L'encours de dette s'établira à 2 070 000 euros au 31 décembre 2024, ce qui portera la durée de désendettement du budget du Golf à 8 années. Passons maintenant au budget annexe du centre aquatique. En fonctionnement, les charges à caractère général, elles vont fortement diminuer du fait, comme je le disais tout à l'heure, de la baisse du coût des énergies, donc c'est moins 15%. Charges de personnel, elles seront contenues à 4,4% et les recettes sont inscrites avec une légère hausse de 1,1%. Vous savez qu'on perçoit la subvention d'équilibre de la CAM, elle est donc ajustée en conséquence à hauteur de 1 600 000 euros. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 180 000 euros. L'encours de la dette auprès de la CAM s'élèvera à 382 000 euros au 31 décembre 2024. Et pour rappel, elle concerne en fait la participation de la ville à la construction du centre aquatique. Donc c'est la dernière année que la ville remboursera l'emprunt. L'emprunt sera terminé au 31 décembre 2025. Pour terminer, nous passons au budget annexe de l'île des loisirs. Donc sur 2024, les dépenses de fonctionnement elles seront de 358 000 euros. Nous avons 200 000 euros de dotation aux amortissements et près de 95 000 euros de charges financières qui sont équilibrées par la participation du budget principal. Les investissements, donc c'est notamment l'acquisition de terrains, seront de 350 000 euros financés par l'emprunt. Et l'encours de dette est estimé à 4 327 000 euros au 31 décembre 2024. Pour conclure sur ce rapport d'orientation budgétaire, il vous est proposé pour 2024 les orientations budgétaires suivantes. Maîtriser les charges courantes de fonctionnement dans un contexte de reflux de l'inflation et avec l'apport de nouveaux services en année pleine, je le disais tout à l'heure, notamment le Château Laurent. Optimiser et adapter les produits de fonctionnement des différents services communaux à l'évolution de la consommation de nos concitoyens et de nos usagers. De maintenir des taux de fiscalité sans augmentation pour la 6e année consécutive pour la taxe foncière, d'instaurer la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à hauteur de 15% comme voté en dernier conseil, de déployer le programme d'investissement de façon séquencée et hiérarchisée, de poursuivre sur la période le mouvement de désendettement engagé depuis 2020 et d'inscrire au maximum les projets dans des dispositifs de financement et de contribution extérieure, et notamment des dispositifs de fonds verts. Je vous remercie.
Merci Clémence pour ces explications très pédagogiques. Ce n'est jamais toujours évident de saisir toutes les particularités d'un budget municipal. Bon, est-ce qu'il y a des remarques sur ce... Oui, monsieur Nadal.
Merci monsieur le maire. Les années se suivent et malheureusement se ressemblent. Comme chaque année, à pareille époque, il nous est demandé de voter le rapport d'orientation budgétaire que vous nous présentez. Et comme chaque année, nous allons bien sûr, et ce ne sera pas une surprise, voter contre. Ceci pour une raison très simple. Il est toujours inexact, imprécis et tendancieux quant à sa présentation. Et surtout, en parfaite opposition avec la vision que nous prenons pour notre ville. Comme d'habitude, on y trouve des produits fiscaux toujours à la hausse, hausse des impôts locaux et de la taxe d'habitation. On y trouve également une dette qui s'installe dans la durée, autour de 83 millions d'euros, avec un recours à l'emprunt annuel identique d'une année sur l'autre, autour de 8,5 millions, et même légèrement supérieur aux années précédentes, et une épargne qui se stabilise autour de 10 millions d'euros. Face à ces chiffres, il faudra nous expliquer alors à quel moment l'endettement diminue. Et comme l'an dernier et les années d'avant, vous argumentez sur, je vous cite, un encours de dette qui baisse malgré un bondissement des taux d'intérêt. ce qui est totalement trompeur pour le grand public, puisque, comme chacun le sait, l'encours de la dette se mesure uniquement en capital restant dû aux organismes financiers. Ce sont nos fameux 83 millions d'euros. Et l'intérêt ne venant qu'alourdir la charge annuelle, c'est-à-dire le coût de l'emprunt, et certainement pas le montant qui reste à devoir à la banque, toujours ces fameux 83 millions d'euros. Vous affichez également, comme d'habitude, une durée de désendettement à environ 6 ans et demi, quand les chiffres montrent que nous sommes au-delà de 8 années, et certainement pas, comme d'habitude, vous nous ferez part ultérieurement que, comme c'était le cas l'année dernière, vous aviez fait une erreur de calcul dans vos comptes. On y retrouve aussi et surtout des choix et des orientations budgétaires vivement critiquables quant à leur destination. Rien de nouveau, à part peut-être cette année une dotation supplémentaire sur le budget de la voirie, ce qui n'est pas du luxe, loin s'en faut, quand on voit l'état déplorable de nos infrastructures, mais qui reste pour le coup très insuffisant. Rien n'a été fait correctement durant la durée de l'entretien des routes, pour l'entretien des routes, des trottoirs, des bâtiments, car les budgets, vous les avez fléchés ailleurs. Vous vous en rendez compte enfin cette année, un peu tard, parce que bon, il faut quand même faire quelque chose. Alors vous affichez des budgets, vous augmentez la taxe d'habitation de 15%, car il faut bien rentrer de l'argent. Un peu d'ailleurs comme a fait il y a peu la SODEAL en augmentant les places de port de 12% pour pallier à ces carences et qui durent depuis des années. Les méthodes de gestion du quotidien sur la voirie se ressemblent. Les quais du Cap d'Agde, les routes et les rues de la commune, c'est à peu près le même combat de désolement. Et puis, il y a la voix de la rue, de vos administrés, exaspérés, qui finalement vous disent, surtout à 2 ans et demi avant la prochaine élection, qu'il faudrait bien faire quelque chose quand même pour le quotidien. Vous faites sur la voirie, comme ailleurs sur le quotidien, de la cosmétique électorale. D'une manière générale, ce budget, comme les précédents d'ailleurs, est bâti sur vos besoins croissants d'augmentation des recettes fiscales, donc des taxes aussi bien sur l'immobilier que sur les parkings ou autres. Et tout cela pour financer vos projets pour le moins discutables. On pourra discuter de l'entrée du Cap, de la promenade, pour ne citer que les derniers. Vous êtes entré dans une spirale infernale qui consiste à bâtir davantage sur notre commune, quitte à la défigurer et à lui enlever petit à petit son âme. Vous attirez de plus en plus de monde, donc plus de contribuables, parce que vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous nous proposez une fuite en avant. Notre ville est impactée par vos décisions politiques et budgétaires qui font perdre à notre ville son identité, elle est devenue quelque peu impersonnelle, avec une population bien trop nombreuse rapidement. Tout ceci entraîne son lot de problèmes avec des infrastructures dégradées, inadaptées et insuffisantes, comme par exemple les voiries, les écoles ou par exemple l'offre médicale de santé. Tout cela est absent dans vos différents budgets et a des conséquences sur notre vie de tous les jours. Nous avons besoin de retrouver une cité agatoise harmonieuse. Pourtant, pendant des années, vous aviez promis aux Agatois que la population ne dépasserait pas les 30 000 habitants pour, comme vous disiez à l'époque, conserver ce bien vivre ensemble. Après l'avoir nié, vous savez très bien que nous avons largement dépassé ce chiffre. Où en sommes-nous maintenant? C'est vrai qu'on n'en parle plus de tout ça. Vous nous proposez prochainement un nouveau PLU pour freiner une expansion démesurée et anarchique que vous avez vous-même provoqué pour des raisons strictement financières pour boucler vos budgets. Vous savez très bien qu'énormément de constructions ont déjà commencé et que d'autres vont démarrer. Ce nouveau PLU n'y changera rien. Votre densification urbaine va se poursuivre avec des immeubles toujours plus nombreux, avec des permis qui sont déjà signés. Nous avons besoin d'utiliser l'argent du contribuable dans des projets au plus près de leurs préoccupations et de leur vie quotidienne, la voirie, la santé, la protection des zones naturelles, et non pas dans des projets destructeurs, comme celui par exemple du camping de la Tamaricière ou de la promenade, ou démesurés, comme la passerelle sur les roues pour plusieurs millions d'euros. Les orientations budgétaires que vous nous proposez sont votre vision politique pour le futur d'Agde. Mais vous êtes prisonnier de vos choix passés et de l'endettement provoqué par vos projets pharaoniques. Alors, Il vous faut une expansion toujours plus importante de la ville, pour plus d'habitants, pour plus d'argent, au détriment du cadre de vie et du risque de perdre de notre cohésion sociale. Vous voyez, monsieur le maire, votre rapport d'orientation budgétaire ce soir n'est pas qu'une bataille de succession de chiffres et de ratios. Nous nous opposons à votre projet d'avenir qui définit le cadre de vie où nous allons vivre demain. À notre petite échelle locale, c'est un problème de société. Cela nous concerne, cela nous engage et nous donne une responsabilité envers les générations futures. C'est ce projet que nous combattons à travers votre rapport d'orientation budgétaire et c'est pour cela, tout à l'heure, que nous voterons contre.
Merci, monsieur Nadal. Les années se suivent et vous êtes toujours aussi ennuyeux. Je vous le dis, vous parlez avec une monocorde, ennuyeux, me foutez même le cafard quand je vous écoute, parce que j'ai pas l'impression de vivre dans la même ville que vous. C'est affligeant de vous écouter. D'abord, figurez-vous, monsieur Nadal, que tout ce qu'on vient de dire là, ça correspond tout simplement à des engagements que nous avons pris devant les Agathois. Je vous le rappelle. Une campagne électorale, nous avons été élus pour justement mettre en œuvre ce pour quoi nous nous sommes engagés. Vous parlez de la promenade qui est très destructeur, c'est abyssal ce que vous dites. En quoi le fait de refaire la promenade et d'ouvrir le centre-ville sur l'extérieur, le fait de jeter une passerelle sur l'Hérault pour sécuriser les flux pour aller visiter le Château-Laurent serait totalement déplacé. Alors même que le Château-Laurent que nous avons réouvert au public a attiré d'ores et déjà 50 000 visiteurs. Vous l'avez oublié tout ça. Quant à dire que nous avons dépassé les 30 000 habitants, c'est totalement faux. Le dernier recensement montre que nous sommes à 29 600. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Alors, relisez les dernières statistiques de l'INSEE. Sur le plan médical, je sais bien que vous en connaissez bien plus que moi, mais n'oubliez pas, monsieur Nadal, tout le parcours que nous avons quand même effectué sur cette ville d'Agde. Il y a quand même un hôpital, 3 maisons de retraite, un scanner, un IRM, un centre de dialyse. Voilà, nous avons encore du chemin à parcourir, mais ne dites pas que nous n'avons rien fait pour le quotidien des Agathois. Quant à dire qu'on vivrait mal à Agde, parce que Agde serait envahie par je ne sais quelle population nouvelle, il me semble que justement nous ne faisons pas venir des gens pour du fric, comme vous dites, mais c'est les gens qui viennent à Agde parce qu'il fait bon vivre, tout simplement. Et donc aujourd'hui, nous avons justement durci les conditions du plan local d'urbanisme pour en effet encore mieux maîtriser à l'avenir. Mais aujourd'hui, Agde, en tous les cas, nous mettons l'énergie pour investir dans ce centre-ville sur lequel nous étions engagés. Bon, l'entrée du Cap, visiblement, ne vous plaît pas. Ça, c'est votre choix. Mais aujourd'hui, je pense que les Capagatois sont très heureux d'avoir cette nouvelle entrée. En tous les cas, moi, on m'en dit que du bien, au plan architectural. Donc je pense en plus de ça que depuis des années, nous n'augmentons pas les impôts. Madame Raffanel vient de vous réexpliquer pour la énième fois que les bases fiscales, c'est l'État qui les a fait suivre selon l'inflation. Donc nous respectons nos engagements sur les impôts des Agathois. Voilà. Et je rappelle que la taxe d'habitation, elle est payée par des gens qui ont des résidences secondaires. Donc nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, une ville attractive parce que justement nous respectons nos compatriotes et tous les engagements financiers que vous avez ici au tableau. Il y en a d'autres, vous avez raison de le rappeler, sur l'investissement courant, 3 millions d'euros seront mis sur la réfection des voiries. Je rappelle qu'à la ville d'Agde compte 220 km de voiries. Et donc nous avons du travail sans arrêt là-dessus. Mais on voit bien que tous les investissements qui sont là, monsieur Nadal, remplissent justement la mission de service public et justement de conforter ces services publics qui sont très nombreux sur Agde et de faire en sorte que tous nos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions, faire en sorte d'avoir une nouvelle salle des fêtes puisqu'elle n'était plus aux dimensions aujourd'hui de la commune et en termes de parking, vous en conviendrez, était difficilement accessible. Voilà, et puis donc la promenade qui correspond à des engagements forts. Donc autant d'investissements dont nous sommes très fiers de porter. L'allée de la Flânerie aussi est un engagement que nous avions pris avant les élections. Donc voilà, à partir de là, vous avez le droit de tout critiquer. C'est votre rôle d'opposant. Mais ce budget, comme chaque année, monsieur Nadal, il reflète aussi la rigueur qui est la nôtre. De gestion au quotidien. Voilà, lorsqu'on vous dit que justement les frais liés au personnel ne vont augmenter que de 3,2%, c'est un exploit et j'en félicite l'adjointe aux finances, le directeur général des services et à travers lui tous les services qui font l'effort chaque année justement, de ne pas dépenser sans compter. Et donc, aujourd'hui, cette rigueur, vous nous dites que chaque année, on vous ment dans les rapports. Je vous rappelle qu'il y a quand même des comptes administratifs qui, justement, d'une année sur l'autre, rappellent la véracité de ce que nous vous présentons. Voilà, quant à l'encours de la dette, il y a en effet une part d'intérêt, une part de capital, mais le capital baisse. Voilà, donc c'est bien ça l'essentiel. Et c'est le nombre d'annuités auxquelles nous sommes capables de rembourser cette dette qui montre, hein, chaque année notre rigueur budgétaire. Et cette rigueur, nous nous y sommes aussi engagés. Voilà, nous sommes engagés sur la rigueur budgétaire, sur les investissements que nous faisons, sur la sécurité, voilà, et sur l'attractivité de notre commune et que nous essayons chaque année d'améliorer. Voilà, je parlais du Château Laurent parce que c'est un engagement que nous avions pris. Le centre aquatique marche bien, le Château Laurent marche bien, le centre de tennis marche très bien, le golf marche très bien. Voilà, c'est autant d'équipements qui font un peu notre fierté locale et qui nous permettent à tout un chacun de voir qu'on avait pris les bons choix. Voilà, après, ce ne sont pas les vôtres. On respecte votre point de vue, on est en démocratie, mais je ne peux pas laisser dire que tout ce que nous faisons n'est que mensonge et attractivité de je ne sais qui, je ne sais quoi, pour juste voilà, conforter nos budgets. C'est absolument pas comme cela que nous bâtissons l'avenir. C'est au contraire en ayant cette rigueur, en ayant cette réalité d'esprit, et puis en même temps de nous conformer à ces engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs de cette ville. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire autre chose sur le rapport? C'est bon? Bien, écoutez, on va le mettre au vote alors, hein, donc qui est contre, qui s'abstient, donc il est adopté. Madame Raffanel, on va passer à la question 2, une petite modification, la dernière.
Oui, il s'agit d'une petite modification numéro 2 du budget principal de la ville, hein, qui s'équilibre globalement à 36 988 euros. En fonctionnement, en fait, les dépenses de fonctionnement sur les chapitres 11 et 65 nécessitent l'octroi de crédits supplémentaires. Donc c'est essentiellement pour un complément de la taxe foncière et pour des dépenses d'énergie. Également pour 5 000 euros relatives aux créances éteintes. Et en recettes, sont comptabilisés 36 988 euros supplémentaires, dont 32 000 euros au chapitre 70, c'est le produit des services, en refacturation de la taxe foncière, et 4 988 euros au chapitre 74 pour les subventions. Et en investissement, en fait, il s'agit de prendre en compte plusieurs écritures de virements entre chapitres. Donc ainsi, la décision modificative numéro 2 du budget principal s'équilibre à 0 euros en section d'investissement et à 36 988 euros en section de fonctionnement.
Bien, y a-t-il des remarques sur cette question numéro 2? Non, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée. Monsieur Villa, pour les associations, question 3.
Merci Monsieur le maire, bonjour à tout le monde. Donc il s'agit d'attribution de subventions aux associations. Donc comme association, nous avons le comité des fêtes du Gros d'Agde avec l'organisation des fêtes de Noël au Gros d'Agde pour un montant de 5 000 euros. Et ensuite l'association Tigana contre les maladies orphelines avec les maires en vélo pour un montant de 500 euros. Donc il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention aux associations désignées ci-dessus pour un montant total de 5 500 euros.
Très bien. J'en profite d'ailleurs pour féliciter toutes nos associations, surtout sportives en ce moment. Le rugby est premier et le foot est deuxième. Et le handball est...
Second.
Oui, second aussi. Nos associations sportives sont à la fête. Bien, y a-t-il des remarques sur ces deux subventions? S'il n'y en a pas, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Bentajou, vous avez 12 questions. On va commencer par la numéro 4 à l'ordre du jour.
Je me chronomètre ou quoi?
Pas du tout, monsieur Bentajou. Ce n'était pas un défi que je vous lançais. Vous pouvez y aller.
La question 4. Il s'agit de l'acquisition d'une emprise de 51 mètres carrés, élargissement du chemin du Grand Tétra, à extraire de la parcelle MN76, Madame Viviani, en compensation, report des droits à bâtir.
Très bien. Là-dessus, y a-t-il des remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 5.
S'il s'agit de l'acquisition de la parcelle MC459 de 40 mètres carrés, élargissement du chemin des Étourneaux, Monsieur et Madame Boularne et Madame Afonso, ou Afonso. Tu la connais?
Non, mais on dit.
Il s'agit de report des droits à bâtir.
Est entre une consonne et une voyelle, on dit. Ouais, mais vas-y.
Compensation, report des droits à bâtir.
Des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 6.
Il s'agit de l'acquisition d'une emprise de 21 mètres carrés, élargissement du chemin des Camarines, à extraire de la parcelle MR225, M. Méziane et Mme Hilario, en compensation, report des droits à bâtir sur la parcelle restante et prise en charge des branchements des eaux usées et de l'eau potable.
Très bien, là-dessus, des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient donc adopté. La 7.
Il s'agit de l'acquisition d'un bien vacant 100 mètres, immeuble cadastré LD 303, rue Blanqui, Mme Beltrand, propriétaire décédée depuis plus de 30 ans.
Voilà, quand on dit acquisition d'un bien vacant et 100 mètres, en fait, il tombe dans l'escarcelle de la commune naturellement. Hein, voilà. Là-dessus, des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté.
Il s'agit de l'acquisition de plusieurs parcelles. MN 368, 369, 373, 376, 378 pour un total de 393 mètres carrés à Mme Schmitt pour la création d'une aire de retournement du chemin des roseaux. En contrepartie, report des droits à bâtir sur les parcelles MN 371, 72, 74, 75, 77 et 379.
Très bien, là-dessus des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante.
La 7, c'est acquisition de la parcelle cadastrée ML 345 de 8 mètres carrés, élargissement du chemin des Arbovoirs. Madame Laruelle, en compensation, report des droits à bâtir.
Les remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, adopté. La suivante, la numéro 10.
La 10, acquisition d'un bien vacant 100 mètres, MH 570, place du commandant Vibert. Madame Germain et Madame Calvet, propriétaires décédés depuis plus de 30 ans.
Non, c'était pas ce plan, je pense que. Ouais, on ne le voit pas. D'accord, il n'y est pas. Ok, donc là-dessus, y a-t-il des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante.
C'est la cession des lots 1, 2, 3, 5 et 6 d'un immeuble LI 465, 25 rue Basse, au profit de Mme Rajoinson Harrison, déjà future propriétaire du lot 4, pour la réhabilitation de l'ensemble de l'immeuble. Prix de vente 23 000 euros.
Y a-t-il des remarques là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante.
C'est le déclassement de la cession d'un délaissé rue du commandant Mallet au profit de Mme Raffanel, 96 mètres carrés, au prix de 75 euros le mètre carré. Il faut savoir que les voisins immédiats, Monsieur et Mme Jamme et Fouché et Mouron, avaient déjà acquis des emprises similaires situées devant chez eux, aux conditions identiques en 2022. C'est Alta Maricière, ça.
Voilà, je rappelle que ça n'a rien à voir avec Clémence Raffanel, puisque Clémence, ça s'écrit avec PH. Voilà, il y a deux F. Hein. Voilà, donc vous pouvez participer au vote, Clémence. Y a-t-il des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante.
Il s'agit du déclassement et de la cession de l'emprise du domaine public qui était au fil de Cornu à la société des Dunes, les Dunes, M. Macourt, emprise de 16 mètres carrés, permettant l'alignement du domaine public au prix de 200 euros le mètre carré, avec prise à sa charge du déplacement de la borne d'incendie.
Très bien, y a-t-il des remarques là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La numéro
la dernière.
14. Ouais.
Déclassement et cession d'un délaissé de 62 mètres carrés, rue des Abigeois, Madame Bellamy, propriétaire de la parcelle voisine. Il s'agit d'un cul-de-sac difficile à entretenir par les services. Les propriétaires de la parcelle voisine ne s'opposent pas à cette vente au prix de 29 euros le mètre carré. Un réseau d'eau usée étant présent sur cette emprise, une servitude devrait être créée.
Parfait. Là-dessus, des remarques. Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Bon, comme M. Bentajou...
4 minutes 32.
Mais comme vous avez été très rapide, M. Bentajou, j'en profite quand même pour rappeler que même si ces questions paraissent un peu rébarbatives, elles sont d'une importance capitale, notamment pour élargir les voiries et les sécuriser pour les piétons et les vélos, entre autres, et que tout ça est rendu possible quand même par le travail remarquable du service foncier de la ville d'Agde avec Axel Canton sous l'égide de Didier Seigne, notre DGST. Voilà, et donc c'est un travail de longue haleine, hein, et que M. Bentajou, bien sûr, en tant qu'élu...
Je suis ravi d'avoir 1,5 million de plus pour les rues. Hein.
Voilà. Que M. Bentajou effectue en tant qu'élu, puisqu'il faut recevoir tous ces gens, il faut les convaincre, voilà, de participer à l'intérêt général de notre commune. Alors, la question suivante, c'est tout simplement le bilan des opérations immobilières que devait vous présenter M. Frey, mais comme il n'est pas là, j'en parle. Voilà, donc vous avez ce bilan, donc il faut prendre acte. S'il y a des questions, nous y répondons. Sinon, nous en prenons acte. Y a-t-il des questions sur ce bilan? Non. Donc, on n'y a pas de vote, hein, monsieur le directeur? On est d'accord. Voilà, madame Tardy, on a deux dénominations de voirie.
Oui.
Allez-y, dites-nous de quoi il s'agit.
Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'un ensemble immobilier récemment construit au croisement des rues Victor Pouget, Louis Vallière et Jacques Chaban-Delmas.
Donc c'est dans les Quéré, hein ?
C'est dans les Quéré, derrière le centre des impôts.
Voilà.
Cet ensemble présente deux voies de circulation interne et pour faciliter la fourniture de services publics tels que les secours et la connexion au réseau et d'autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, il convient d'identifier clairement les adresses des immeubles. À cet effet, sur la proposition du promoteur, il est demandé au conseil municipal de dénommer les dites voies rue de l'Aventurine et rue du Jaspe, comme vous pouvez voir sur le plan.
Oui, enfin, le plunge, voilà, il est là. Hop, voilà, donc ces deux petites, vraiment des voiries internes. Bien, y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante.
Alors, il s'agit là d'un ensemble immobilier actuellement en cours de réalisation à l'entrée d'Agde sur la route départementale 912, à hauteur du rond-point du père Georges Canac. Cet ensemble présente une voie de circulation interne qui reliera le rond-point du père Georges Canac à la rue des Entrepreneurs. Pour faciliter la fourniture de services publics tels que les secours et les connexions au réseau et d'autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et les livraisons, il convient d'identifier clairement les adresses des immeubles. À cet effet, sur la proposition du promoteur, il est demandé au conseil municipal de dénommer la dite voie rue des Portes de la Mer.
Bien, là-dessus, des remarques ? Non, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Toureau. On vous passe la parole pour la question 18.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Nous arrivons au terme du contrat qui nous lie à la société de restauration collective dont tout le monde souhaite se débarrasser, d'ailleurs. Donc, à propos de la création d'un groupement d'autorités concédantes pour la passation de la concession de services publics de la restauration collective, par délibération du 25 juillet 2023, le conseil municipal de la ville d'Agde a créé un groupement d'autorités concédantes avec le centre communal d'action sociale de la ville d'Agde et les communes d'Aume, de Montagnac et de Pomerol, afin de mutualiser les besoins et de bénéficier d'économies d'échelle pour la concession de services publics pour la restauration collective. Dans le cadre de la définition des besoins de l'ensemble des membres du groupement, les communes d'Aume et de Montagnac ont souhaité recourir à un autre type de montage contractuel. Par conséquent, il convient de constituer un nouveau groupement d'autorités concédantes ayant pour objet la relance de la concession de services publics de la restauration collective, conformément aux dispositions des articles L3112-1 à L3112-4 du Code de la commande publique. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement sont fixées dans le projet de convention constitutive annexé à la délibération. Il est précisé que la ville d'Agde sera le coordonnateur du groupement. De plus, la commission de concession de services publics du groupement sera la commission de la ville d'Agde. Le conseil municipal est invité à se prononcer.
Merci, Guylain. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, donc, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante, Guylain, je crois que c'est la même chose à peu près.
Alors oui, c'est le principe de la délégation du service, toujours pour le service public pour la restauration collective. Il est actuellement géré par la société SHCB dans le cadre d'un contrat de concession de service public dont le terme est fixé au 5 juillet 2024. Pour préparer le renouvellement de la convention de concession de services publics, la ville s'est engagée dans une démarche visant à améliorer le rapport coût-qualité du service public pour les usagers. À l'issue de ces réflexions, la ville s'oriente vers le maintien d'une gestion externalisée dans le cadre d'une concession de services publics. Conformément au CGCT, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le principe de la délégation du service public de la restauration collective après avis de la commission consultative des services publics locaux. Compte tenu de la nature commerciale de l'activité de restauration collective, la gestion par une personne morale distincte de la commune serait plus appropriée qu'une gestion en régie directe, juridiquement moins souple et demandant des compétences que la ville ne possède pas en interne. Aussi, la ville souhaite préparer les conditions de passation du nouveau contrat à conclure à compter du 6 juillet 2024. Elle envisage d'optimiser l'économie générale des différents services de restauration, de rationaliser les coûts du service, d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers, de développer les approvisionnements auprès des filières agricoles locales, ainsi que les modalités de contrôle du concessionnaire. Afin de poursuivre la démarche initiée avec le CCAS, la ville d'Agde souhaite former un groupement d'autorités concédantes avec le CCAS et la commune de Pomerol. Au terme de la convention de groupement qui sera signée, les membres donneront mandat à la ville d'Agde en qualité de coordinateur pour conduire la procédure de concession de services publics et conclure le contrat. La durée du contrat sera de 5 ans, sans possibilité de tacite reconduction. Le contrat prendra effet le 6 juillet 2024 et se terminera le dernier jour de l'année scolaire 2028-2029. Le concessionnaire sera responsable de la gestion et du fonctionnement du service et l'exploitera à ses risques et périls. Les caractéristiques des prestations concédées sont détaillées dans le rapport de présentation annexé à la délibération. Le conseil municipal est invité à se prononcer.
Merci, Monsieur Toureau. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Oui ? Allez-y, je vous en prie.
Merci. Si sur le fond, je n'ai rien à vous dire, n'ayant pu assister à la commission de ce matin...
Vous nous avez manqué.
Voilà, je savais bien. C'est bien pour ça que j'ai, par écrit, rédigé donc petite note au service, et notamment sur les modalités de contrôle et sur les dates de ce contrat. Et j'espère qu'elles seront prises en compte, ou tout au moins comme... justifiera s'ils ne sont pas pris en compte.
Oui, non, mais on va vous y répondre. Je ne sais pas qui c'est qui avait ce matin. Qui c'est qui a vu la lettre de M. Dumont ? Ce n'est pas la lettre du Père Noël, hein, c'est la lettre de M. Dumont ce matin. Pour... Personne. Non, mais ils ne sont pas là. Ils sont pas... Ouais, bon, ouais, on vous y répondra. Je ne savais pas que vous avez envoyé une lettre. On ne me l'a pas dit. Hein, Laurent, vous le saviez ? M. Dumont avait envoyé une lettre ?
Non.
Hein ? Ah, ça a été... D'accord. Vous l'avez caché. Hein ? Non, mais ça va, M. Dumont, on va vous y répondre, il n'y a pas de problème. Ok, merci, M. Dumont. D'autres remarques ? Sinon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté. On finit avec le gaz, M. Toureau ?
Bien sûr. Rapport d'activité au titre de l'année 2022 pour la concession de distribution publique de gaz naturel. Le Conseil municipal a, par délibération en date du 25 septembre 2014, attribué à GRDF la concession de distribution publique de gaz naturel pour une durée de 30 ans à compter du 1er décembre 2014. En application de l'article 31 du traité de concession, la société GRDF a transmis à la ville le compte-rendu de l'activité de la concession au titre de l'année 2022, jointe en annexe à la présente délibération. Le rapport fait apparaître une qualité de service maintenue par GRDF dans un contexte de baisse de l'activité, un compte d'exploitation de la concession bénéficiant largement de la péréquation nationale et des investissements 2022 soutenus liés à un réseau à Gatois dense. Il est signalé la fin du tarif réglementé de vente du gaz depuis le 1er juillet 2023. Ce rapport d'activité a été présenté pour avis à la Commission consultative des services publics locaux. Le Conseil municipal est appelé à en prendre acte.
Merci. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, nous en prenons acte. Et nous passons la parole à Véronique Salgas pour la question 21.
Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la convention d'application 2023-2024 du contrat de gestion intégrée et de transition écologique du territoire de Thau 2020-2025 et d'une autorisation de signature pour cette convention. Alors, ce contrat de gestion intégrée et de transition écologique du territoire de Thau a été mis en place en 2020 pour répondre non seulement à toute la nouvelle réglementation et ou législation en matière de lutte contre le dérèglement climatique et pour la croissance verte, mais aussi pour obtenir et surtout des subventions de l'Agence de l'eau. En relation avec les orientations du SCOT de Thau ainsi que du SAGE de la lagune de Thau, dont il a le même périmètre, ce contrat comprend 57 fiches actions qui sont regroupées sur trois axes. Le premier axe, c'est un aménagement résilient et durable pour engager le territoire dans la transition écologique. Le deuxième axe, une économie littorale globale capable de s'adapter au changement climatique. Et enfin, le troisième axe, pour une gestion environnementale équilibrée pour protéger la biodiversité et les usages. Le pilotage de ces actions est assuré par un comité multipartenarial regroupant les 26 communes du territoire. Ce contrat fait l'objet de deux conventions d'application. La première s'est achevée en 2022 et elle a fait l'objet d'un bilan à mi-parcours qui a été présenté et que vous pouvez tous retrouver sur le site du SMBT, avec comme principale action notamment l'action de lutte des eaux claires parasites sur la commune de Pinet de Pomerol, ou encore des actions de pompage des eaux usées et qui ont été évacuées sur la steppe. Il convient maintenant pour la commune d'Agde de s'engager à signer la deuxième convention d'application de ce contrat de gestion intégrée et de transition écologique du territoire de Thau.
Merci Véronique. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce matin j'étais avec le directeur du conservatoire du littoral au Bagnas, avec lequel d'ailleurs ça s'est très bien passé. Il est très heureux de la coopération avec la ville et l'agglo, puisque nous étions en visite du chantier de la future maison d'accueil sur le Bagnas, qui d'ailleurs est bientôt fini là, à la fin de l'année, et qui nous permettra de mieux accueillir les visiteurs sur le Bagnas, sachant qu'il faudra très certainement, mais le département y travaille, faire un rond-point d'accès à la réserve, là, parce que c'est d'une dangerosité extrême. Je ne sais pas si vous voyez tous où se situe le sujet, là, mais la sortie de la réserve du Bagnas, c'est quand même très dangereuse. Voilà. Donc logiquement, on devrait pouvoir faire un rond-point à terme. Et en même temps, Monsieur Dupuis, nous avons la visite du gouvernement de Hong Kong demain après-midi à la maison de la mer. Vous voyez qu'on fait des choses dans cette ville, des belles choses, et notamment sur l'environnement. Voilà, et donc cette maison de la mer, qui est quand même une exception un peu française, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça sur Piloti, là, dans l'eau. Et donc on attire beaucoup de visiteurs venus du monde entier. Alors demain, ils viennent de Hong Kong. Voilà, donc... Je ne sais pas si vous parlez le cantonais couramment, M. Dupuis, mais on va les recevoir. Bon, en général, il parle l'anglais quand même. Voilà, donc sur cette question, ça m'a fait rebondir, sur cette question de transition, y a-t-il des remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Marie-Hélène Mathia pour la question 22 concernant l'engagement de la ville pour la promotion du tourisme dans le cadre du handicap.
Merci, Monsieur le maire. Afin de mieux répondre aux attentes de personnes handicapées ou à mobilité réduite, que ce soit pour une population de vacanciers ou pour une population locale, Hérault Tourisme et le département ont engagé une politique incitative en mettant en place une série de mesures d'accompagnement via la marque nationale mise en place par l'État qui s'appelle Destination pour tous, l'objectif étant de renforcer l'attractivité du territoire pour la clientèle à besoins spécifiques. La ville d'Agde souhaite s'engager dans cette démarche et être accompagnée par Hérault Tourisme au travers de la signature d'une convention. Le conseil municipal est appelé à autoriser la signature de la convention d'accompagnement pour le dépôt de candidature de la ville et son suivi avec l'agence de développement touristique de l'Hérault.
Voilà. Et du coup, je vous proposerai que nous nommions Sylviane Perret, notre vice-présidente au CCS, pour accompagner ce dossier. Voilà. D'ailleurs, si le département nous a repérés en la matière, puisque je crois, Sylviane, qu'on sera parmi les 7 communes de l'Hérault à bénéficier de ce... Voilà. Autant pour moi. 9 au niveau national et 3 au niveau de l'Hérault, dont nous ferons partie, puisque nous serons quasiment la seule commune de France à être aussi bien équipée pour les activités nautiques liées au handicap. Et donc c'est un honneur que je souhaite partager avec vous toutes et vous tous, sachant qu'on avait déjà fait des choses, ne serait-ce que la plage de la Roquille, qui est accessible, notamment aux handicapés, quel que soit d'ailleurs leur handicap, qu'il soit visuel ou qu'il soit moteur. Voilà, donc on s'engage dans cette démarche et je vous propose que Sylviane nous accompagne sur ce dossier, pour pouvoir ensuite développer des fiches actions très concrètes. Voilà, y a-t-il des remarques là-dessus? Oui, Monsieur Nadal.
Oui, bien sûr, on vote pour cette délibération. Simplement deux remarques qu'on voulait faire, donc, puisqu'on vient de parler du rapport d'orientation budgétaire 2024. Pour l'accessibilité des bâtiments, on voit dans le rapport qu'en 2024, il y a 0 euros. En 2025, pour les bâtiments, 30 euros. Et en 2026, 30 000 euros. Et en 2026, 30 000 euros également pour l'accessibilité des bâtiments. Pour l'accessibilité des voiries, 0 en 2024, 150 000 euros en 2025 et 150 000 euros en 2026. Déjà, au ROB de 2023, ce sont les mêmes sommes qui apparaissaient, mais décalées d'un an par rapport au ROB 2024. Donc la question est, bien sûr, on vote cette, et ça va dans le bon sens, mais au final, on se demande si les travaux seront-ils réellement réalisés, parce qu'on voit qu'il y a eu un report. Deuxièmement, pour l'accessibilité, dans les permis de construire que vous signez ou que vous accordez, souvent, on a vu à deux reprises, on citera les exemples après, qu'il y a une diminution de largeur des trottoirs, ce qui rend, bien sûr, le passage de personnes à mobilité réduite quasiment impossible. Les exemples qu'on avait relevés, ils avaient été dits en conseil municipal, c'était sur l'avenue Charles de Gaulle. Et on nous a signalé aussi sur les nouvelles constructions qui sont près de la gendarmerie. Voilà, ça
n'oublie pas le fait que nous... Votre question bien pernicieuse me permet de vous répondre, comme à chaque fois. D'abord, lorsqu'on refait des voiries, c'est compris dans la voirie. Bien sûr qu'on fait des bateaux à tous les endroits où on refait des voiries, donc c'est compris dedans. Je demanderai au service de faire apparaître tous les travaux. On fait également des arrêts de bus accessibles aux handicapés. Quant au bâtiment, M. Nadal, s'ils n'étaient pas accessibles aux handicapés, ils ne seraient pas aux normes, donc ils seraient fermés. Voilà, je vous réponds. Le dernier en date qui n'était pas accessible, malheureusement, aux handicapés, c'était l'ancien palais des congrès. C'est pour ça qu'on en a fait un neuf. Donc forcément, on ne va pas marquer une ligne accessibilité, puisque c'est compris dans les frais du bâtiment. On a rendu, au passage, beaucoup d'écoles accessibles également aux handicapés. Des vieilles écoles. Ce sont des obligations légales, je le rappelle. Et le dernier en date d'établissement qui va l'être, c'est la gare d'Agde, qui n'est malheureusement pas accessible aux handicapés. Là, pour le coup, c'est la région qui a lancé ce qu'on appelle des PEM, hein, des pôles d'échange multimodaux. Et si la gare, il va être investi à peu près 30 millions d'euros, c'est avant tout pour la rendre accessible aux handicapés. Et au passage, on va refaire neuf. Donc, voilà, ne dites pas n'importe quoi en disant qu'on n'investit rien sur les handicapés. En fait, tous nos bâtiments publics sont accessibles aujourd'hui aux handicapés. Sinon, ils seraient fermés. Vous le savez très bien. Alors après, il y a des locaux comme le Château Laurent, par exemple, où c'est des fois plus compliqué parce que ce sont des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale et dans lesquels parfois on ne peut pas rendre toutes les salles accessibles aux handicapés. Mais ça, on le voit avec l'architecte des bâtiments de France. On démultiplie toutes les ingénieries possibles et imaginables. Mais si Didier Seigne vous fait la liste de toutes les rues, de tous les plateaux traversants qu'on a pu faire, de toutes les places publiques la flânerie est un exemple. Vous voyez, la flânerie, je ne sais plus combien on met dans la flânerie, elle va être accessible aux handicapés. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Les nouveaux espaces publics qu'on a créés, par exemple, sur le site d'Iconique, ils sont tous accessibles aux handicapés. Voilà. On ne marque pas, on a mis temps pour l'handicapé. C'est compris dans le chantier. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. J'espère qu'à l'avenir, vous le comprendrez comme ça.
Juste une dernière remarque, et pour les permis de construire qui sont délivrés avec les trottoirs en face et qui n'ont pas la largeur légale, ça, qu'est-ce que vous pouvez...
Monsieur Nadal, on ne délivre pas des permis de construire illégaux. Voilà, s'ils sont illégaux, on ne les délivre pas. Non, mais je tiens à mettre les choses bien les points sur les i, les barres sur les t. S'ils sont illégaux, la préfecture nous les annule, les permis de construire, monsieur Nadal. Donc il n'y a pas de permis de construire où on brogne sur le trottoir ou pas sur les trottoirs. Il y a un permis de construire qui respecte la loi. Voilà. Et donc, normalement, le trottoir, il permet de faire passer un chariot handicapé. Sinon, c'est le trottoir qui n'est pas aux normes. C'est pas le permis de construire. Voilà. C'est là, vous cherchez la petite bête où il n'y en a pas. Excusez-moi de le dire. Et d'ailleurs, ne serait-ce qu'il y a des rues au Cap d'Agde. Parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que le Cap d'Agde a été construit dans les années 70 sans respecter strictement aucune norme handicapée. Voilà. Donc, ça n'existait pas. Voilà. Donc, tout ce que l'on entreprend de travaux nouveaux, par exemple, au Cap d'Agde, on va en faire d'autres. Vous avez raison. Des fois, il y a des trottoirs qui sont trop étroits, qui ne respectaient pas les normes à l'époque. Et donc, lorsque nous reprenons ces rues, nous faisons des plateaux traversants, comme on dit. C'est-à-dire, on met les trottoirs au même niveau que les routes, la plupart du temps, et on met des plots pour, justement, sécuriser les bandes qui sont réservées aux piétons ou aux cycles, si c'est des pistes cyclables. Voilà. Mais aujourd'hui, ce travail se fait naturellement, et les services, bien sûr, sont tenus de respecter la loi, et nous la respectons, y compris pour la délivrance de permis de construire. Bien, donc là, on en était à Aérotourisme pour mieux accueillir encore les handicapés que Madame Perret va nous représenter. Hein, c'est ça, Marie-Hélène ? Voilà, d'autres remarques, sinon, qui est contre, qui s'abstiennent, donc adopté. Christine Antoine, pour la convention... de partenariat Ville d'Agde, oui, INRAP.
Il s'agit de l'approuver, justement, d'approuver la convention cadre de partenariat culturel et scientifique entre la Ville d'Agde et l'INRAP. Alors, la Ville d'Agde souhaite donc s'associer à l'Institut national de recherche archéologique préventive en vue de mettre en œuvre des opérations visant à valoriser les découvertes issues de fouilles menées sur le territoire communal et ses environs. Cette collaboration se présente sous la forme de supports pédagogiques, de manifestations ou d'expositions, dont une dédiée à Agde grec qui sera programmée en 2026. Ce partenariat est conclu sur une période de 3 ans à compter de l'année 2023. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention cadre de partenariat culturel et scientifique donc entre la Ville d'Agde et l'INRAP.
Ouais, je rappelle d'ailleurs
que le maire a signé tous les documents.
Voilà, que l'INRAP fait beaucoup de recherches archéologiques à travers les chantiers que nous effectuons en centre-ville, notamment, pour ça que parfois ça retarde un peu, mais c'est comme ça, c'est la loi, et nous la respectons scrupuleusement. Bien, y a-t-il des remarques sur cette question? Sinon, s'il n'y en a pas qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Eve Escande pour la question 24.
Merci Monsieur Lebert, bonsoir à toutes et à tous. Alors il s'agit du projet d'établissement du théâtre, hein, le projet d'établissement 2024 et jusqu'en 2028. Alors depuis un an d'existence, ce théâtre, eh bien, après quelques mois d'expérimentation et un bilan particulièrement encourageant puisque il y a eu 4492 spectateurs d'octobre 22 à juin 23. Le théâtre Agathois a su rencontrer un nouveau public et participe activement à la vie culturelle de la cité. En lien avec les directives ministérielles, le projet d'administration de la ville d'Agde et ainsi que le projet de direction des affaires culturelles, le projet d'établissement 2024-2028 du théâtre Agathois s'articule autour de plusieurs enjeux majeurs avec un double objectif, développer et diversifier les publics, l'accompagnement du vivre ensemble via le développement et la défense, bien sûr, des droits culturels, notamment pour les plus jeunes, l'exigence de la qualité de services publics, de diversité de l'offre de la programmation culturelle, la participation et la redynamisation du cœur historique, la mise en œuvre et l'animation de partenariats par des actions menées en transversalité. Donc, ainsi, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur ce projet d'établissement 2024-2028 du Théâtre Agathois qui s'engage à travers 3 grands axes de travail. Contribuer à l'attractivité du cœur de ville en diversifiant l'offre culturelle, en renforçant les collaborations avec d'autres services et structures du cœur de ville, en valorisant les artistes locaux et régionaux à travers l'accueil de résidences, en créant un club de mécènes. Contribuer, le deuxième axe, à la mise en œuvre d'une politique jeunesse élargie en créant une école du spectateur, en attirant les familles avec une programmation variée et intergénérationnelle, en développant les ateliers de pratiques culturelles à destination des enfants et des adolescents. Et le troisième axe, contribuer à l'innovation sociale et à la modernisation de l'offre des services, en privilégiant justement des approches conviviales, créatives et collaboratives, en allant à la rencontre des publics empêchés, en accueillant des offres de formation culturelle et artistique. Donc le projet d'établissement a vocation à décliner les activités du théâtre et les grandes orientations pour les 5 années à venir. Il pourra bien sûr être éventuellement amendé en fonction notamment de nouvelles réglementations nationales. Donc le Conseil municipal est invité à se prononcer sur ce projet d'établissement.
Merci Eve. Et vous êtes beaucoup engagée avec le service culturel dans toutes ces questions essentielles. Y a-t-il des remarques là-dessus, sur ce modèle de développement? Non. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Martine Vibarel pour la carte scolaire.
Merci Monsieur le maire. Alors, il s'agit de la carte scolaire 2024. Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, le DAZEN. Donc.
Mais bien le micro, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde t'entende bien. Voilà, merci.
Voilà, le DAZEN demande aux communes de se prononcer, comme tous les ans, sur la carte scolaire, donc en vue de la rentrée 2024. Au vu des projections d'effectifs pour cette rentrée 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal de demander au DAZEN donc le maintien des postes d'enseignants sur les écoles maternelles et l'ouverture d'un poste d'enseignant en section élémentaire à l'école Anatole France.
Très bien. Bien là-dessus, y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, donc, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Marion Mertens pour l'égalité homme-femme. Hein, comme chaque année, nous devons faire la transparence sur les effectifs dispatchés par sexe. Alors, oui, on en est où ?
Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de prendre acte du rapport sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En quelques mots, les femmes représentent 53% de l'effectif.
Donc, les femmes sont majoritaires dans cette mairie. Voilà, je tiens à le dire.
Elles sont surtout majoritaires dans les filières administratives, animation, culture et sociale.
Oui, bon, elles tiennent moins la pelle et la pioche. Quoique, on voit beaucoup de femmes aux espaces verts. Hein, j'en parle pour l'agglo. Donc, elles sont aussi dans des services techniques.
Les hommes, eux, sont majoritaires dans les filières techniques, sportives et police municipale. La répartition selon les catégories A, B ou C est relativement équilibrée. Les hommes restent majoritaires dans les fonctions d'encadrement à 61%. 83% des emplois non complets sont occupés par des femmes. C'est surtout la direction enfance et famille. Et un écart de rémunération est expliqué par une représentation majoritaire des hommes dans les filières bénéficiant d'un régime indemnitaire plus important comme la police municipale.
La police municipale, oui, qui a un régime. Mais en fait, Luc Larose, il y a quelques femmes quand même à la police municipale. Hein, 10%? Bon, voilà. Bien. Hein? Oui, bon. Très bien. Donc là-dessus, as-tu des remarques sur ce rapport?
J'ai une remarque à faire.
Je vous
tu
en
as
prie.
Dit que les femmes étaient majoritaires dans la mairie?
Oui.
S'il n'y avait que dans la mairie.
Oui, non, mais en général, ils sont majoritaires dans la société. Je pense qu'on est à peu près dans ce... Voilà. Monsieur Bentajou, cette remarque machiste était fort déplacée. Hein? Bien. Mais bon, vous en veux pas, vous êtes le doyen. Très bien, là-dessus, donc, on vote, c'est ça, ou pas?
On en prend acte,
voilà. Bon, ensuite, il reste les décisions que j'ai pu prendre. Y a-t-il des remarques sur ces décisions? S'il n'y en a pas, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve pour le dernier conseil avant le 19 décembre, voilà, avant les vacances de Noël. Merci à tous.